Après une décennie qui rebat les cartes géopolitiques, crise économique, migratoire, lutte contre le terrorisme, puis lutte contre la pandémie. Les frontières mises à rude épreuve, la libre circulation contestée comme jamais, les protectionnismes aussi qui émergent. Nous questionnons la notion de frontière avec mon invité. Il est chercheur de terrain actuellement dans le Caucase, au Karabakh, après le conflit de territoire entre l'Azerbaïdjan et la République autoproclamée du Haut-Karabakh soutenue par l'Arménie. Le directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, Bruno Tertrais, qui réédite son Atlas des frontières aux éditions des Arènes.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Bruno Tertrais.
Bonjour.
Vous êtes actuellement dans le Caucase, je le disais, le Karabakh plus précisément, chercheur de terrain. Alors commençons par là. On est face à une illustration très concrète là, de ce dont nous parlons ce matin, la notion de frontière.
C'est aussi une illustration du fait que, tout simplement, les frontières sont assez résilientes, parce que certains ont dit que les frontières avaient changé à l'occasion du conflit qui a opposé l'Arménie à l'Azerbaïdjan au mois de novembre. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est plutôt un retour aux frontières héritées de l'ex-Union soviétique. Et les frontières internationales, finalement, elles sont assez résilientes, au sens où on les change assez rarement. Elles ne bougent pas beaucoup, même si, bien sûr, certains États, certaines puissances aimeraient bien... Ces frontières changent, mais ces frontières, moi je les appelle plutôt des frontières résilientes.
Et on est aux portes de l'Europe et finalement ces enjeux n'ont pas tant changé que ça.
Il y a eu quand même un événement tout à fait fondamental en 2014, c'est-à-dire que pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un État a voulu changer les frontières internationalement reconnues par la force. Et cet État, c'est la Russie qui a annexé une partie du territoire ukrainien, alors même que la Russie reconnaissait la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Et donc ça, c'était un événement tout à fait majeur. La condamnation très large de la communauté internationale vis-à-vis de l'annexion de la Crimée, donc ce changement de frontière par la force, qui est quelque chose que même l'Union soviétique ne faisait pas, je crois que ça restera plutôt une exception qu'une nouvelle norme. Et encore une fois, là où je me trouve, c'est-à-dire dans le Caucase, on voit plutôt un retour aux frontières acceptées, plutôt que de véritables changements de frontières internationales.
Il y a cet atlas des frontières que vous rééditez, Bruno Tertrais. Il y a ce que vous dites et la zone du Caucase où vous vous trouvez. Ces frontières, elles paraissaient dépassées à l'heure de la mondialisation. Aujourd'hui, est-ce qu'elles sont encore une grille de lecture pour la planète, une grille de lecture de la politique internationale ?
Les frontières ont gagné quelque part. C'est-à-dire que les frontières connaissent de plus en plus de succès, si j'ose dire, puisque elles ont été relégitimées à la fois, bien sûr, depuis 1990 avec toutes ces nouvelles indépendances, tous ces nouveaux États, mais aussi parce que les chocs qu'elles ont subis, le terrorisme, les migrations, et puis plus récemment la pandémie, bien sûr, elles ont suscité un besoin de frontières, j'allais dire même un désir de frontières. Vous savez, lorsque Donald Trump disait les gens veulent voir des frontières. C'est une citation de Donald Trump. Il disait quelque chose de vrai. Quand on n'a pas de frontières, on n'a pas d'État. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de pays au monde, que ce soit en Europe ou ailleurs, partagent.
Mais vous mentionniez la pandémie qui a rendu cette question très concrète. De retrouver une frontière entre la France et l'Allemagne, pour plusieurs générations, c'était parfaitement inconcevable il y a à peine plus d'un an.
Oui, c'est vrai, on a pris la liberté de circulation entre la France et l'Allemagne et plus largement entre les pays de l'espace Schengen. On l'a tenue pour acquise. Je pense que c'est provisoire, je pense que c'est contingent, mais en tout cas, nous ne pouvons plus considérer que c'est quelque chose, cette liberté de circulation, qui est définitivement acquise. On avait cru au début des années 1990 que on irait inéluctablement vers un monde avec des frontières de plus en plus effacées, des frontières de plus en plus poreuses, des frontières de plus en plus faciles à passer. Eh bien, ça n'est pas le cas, la pandémie nous l'a rappelé.
On sort d'une décennie de crise économique, de guerre contre le terrorisme, de crise migratoire et maintenant donc de pandémie mondiale. À vos yeux, Bruno Tertrais, est-ce que l'espace Schengen va survivre ?
De même qu'avec l'euro, on a fait cet outil formidable, mais sans convergence des politiques budgétaires et économiques, avec l'espace Schengen, on a fait ce projet formidable de la liberté de circulation sans trop s'occuper du contrôle des frontières extérieure de l'Europe. Or, on voit aujourd'hui que la liberté de circulation en Europe, ça n'est tenable que si on garantit aux citoyens de l'espace Schengen que la frontière extérieure est bien contrôlée.
Alors si on parle beaucoup de frontières physiques ce matin, aujourd'hui c'est aussi une question économique. Quand on parle de protectionnisme ou même d'impôt mondial sur les sociétés, c'est le même débat, non ?
Il y a eu deux mouvements différents depuis 2008-2009. Il y a eu d'abord l'impact de la crise économique et le retour d'un certain protectionnisme. Les barrières douanières se sont élevées de nouveau, alors qu'on était plutôt, depuis le début des années 90, dans une sorte de libéralisme qui correspondait à une ouverture des frontières. Mais je pense qu'après la pandémie, on aura plutôt un tel désir d'ouverture et de circulation de nouveau que ces phénomènes seront de moins d'importance.
Alors on a mentionné Trump, on aurait pu parler de l'Inde aussi ou d'autres. Parfois, la revendication de ces frontières est associée au populisme. Nous parlons du terrorisme par exemple, mais pas seulement. Est-ce que ces frontières, à vos yeux, sont une solution ?
Il ne faut pas croire que la lutte contre le terrorisme passe prioritairement par la fermeture des frontières. Ça serait une illusion. La grande majorité des actes de terrorisme que nous avons connus en France ces dernières années ont été le fait de personnes qui soit sont entrées légalement, soit tout simplement étaient des Français. C'est pas une question d'ouverture ou de fermeture de frontières. C'est une question de bonne coopération entre les États membres. Ça me semble beaucoup plus important que l'idée de fermer ou d'ouvrir les frontières. Ce n'est pas vraiment ça le sujet quand on cherche à lutter contre le terrorisme.
Bruno Tertrais, j'aimerais qu'on parle ce matin de la mer, parce que vous dites que la question des frontières maritimes va devenir fondamentale.
Nous sommes aujourd'hui, comme disait Paul Valéry, le temps du monde fini commence. Nous sommes dans un monde dans lequel les frontières terrestres sont quasiment toutes tracées. Il n'y a plus de zone blanche sur la planète, ou quasiment plus aucune. Je crois que la mer, ça va être véritablement la nouvelle frontière du 21e siècle, au sens du Far West, c'est-à-dire que chaque État qui dispose d'une façade maritime, et encore plus les États désireux d'étendre de manière un peu impérialiste leur influence sur la mer, vont tenter non seulement de tracer leurs propres frontières, mais de disputer aux autres leur souveraineté territoriale. Et la France est très bien placée dans ce grand jeu, et que si ses demandes d'extension sur les droits qu'elle demande à l'ONU sur son domaine maritime sont acceptées, eh bien la France aura le premier domaine maritime mondial, ce qui sera très important pour les enjeux de ressources et de souveraineté du 21e siècle.
Pour terminer, ce sera ma dernière question, Bruno Tertrais, je reviens au terrain du Caucase, où vous vous trouvez. Le journal Le Monde racontait il y a un mois l'histoire de Chournouk. C'est un village coupé en deux, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'histoire de Stepan, agriculteur arménien, 72 ans, dont la maison est coupée en deux, expropriée d'une partie. Il lui reste sa chambre et son salon, qui sont restés du côté arménien. C'est ça une frontière ?
Vous savez, des situations comme celle-là, il y en a d'extrêmement pacifiques et d'extrêmement conflictuelles. Extrêmement pacifiques, par exemple, entre la Belgique et les Pays-Bas. Vous avez aussi des propriétés et littéralement des maisons qui sont coupées en deux. Et pourtant, ça se passe très bien parce que les États, parce que les sociétés s'entendent bien. Et les frontières, c'est toujours un symptôme. Il n'y a pas de conflit frontalier. La frontière est plutôt le symptôme plutôt que la maladie. Elle reflète toutes ces tensions et tout ce qu'il y a de meilleur ou de pire dans la coexistence entre deux États et entre deux sociétés.
En ligne, depuis le Karabakh, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, je rappelle cette nouvelle édition de l'Atlas des frontières, murs, migrations, conflits, c'est aux éditions Les Arènes. Merci Bruno Tertrais.
Merci à vous.